C'est l'été sur France Musique.
Il est 8h30 et comme tous les matins de l'été, on reçoit nos invités du jour. Aujourd'hui, ils sont deux dans le studio de France Bleu Provence, ici à Aix-en-Provence. La chef d'orchestre Susanna Melki, qui dirige les représentations d'Innocence, le nouvel opéra de Kaya Saariao avec l'Orchestre Symphonique de Londres jusqu'au 12 juillet. Et puis Jérôme Brunetière, qui est le secrétaire général du Festival d'Aix-en-Provence, directeur de l'Académie de la Méditerranée. Bonjour à tous les deux.
Bonjour
Susanna, bonjour Jérôme. On va commencer avec Jérôme peut-être pour dire que le festival a commencé il y a une semaine maintenant avec des contraintes sanitaires qu'on connaît, des tests pour accéder aux salles de spectacle. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan? C'est-à-dire est-ce que les contraintes ont dissuadé une partie du public ou pas?
Écoutez, sincèrement, je ne le pense pas. Je crois que le mot qui s'impose après ces quelques jours de festival, c'est la joie. Il y a vraiment la joie des spectateurs de retrouver les salles de spectacle, de retrouver les artistes, la joie des artistes de retrouver du public qu'on sent vraiment dans toutes les productions, dans toutes les activités de l'académie, dans tous les concerts, qui est vraiment très très flagrante. Énormément de réservations ces dernières semaines, après évidemment une période mars, avril, mai extrêmement morose. Souvenez-vous, on était dans les reconfinements, dans l'absence de perspectives, on ne savait pas ce qui allait se passer. Nous avions décidé de maintenir le cap, mais les spectateurs étaient inquiets. Donc non, on ne sent pas ça. Le pass sanitaire qui nous effrayait un peu, finalement, les choses sont assez simples. Il faut présenter le QR code pour entrer ou un papier. Il y a des tests en dernière minute qui sont possibles, des tests antigéniques dont on a la réponse en quelques instants. Et très vite, c'est oublié, on passe ce contrôle des tests et puis on est là pour le spectacle et toute cette histoire est derrière nous.
Alors vous faites bien de rappeler qu'on peut faire ce test au dernier moment, parce que j'ai vu ça hier à l'entrée du théâtre de l'Archevêché, par exemple, il y a une sorte de petite tente, c'est ça?
Donc oui, alors je ne veux pas encourager tous les spectateurs à venir au dernier moment sans test, parce que sinon ça va faire un embouteillage. Mais en cas vraiment de pépin, il y a cette roue de secours, mais c'est vraiment en cas de situation extrême.
Est-ce que ça a changé aussi la manière de travailler avec les artistes sur scène, les répétitions, etc., ces conditions sanitaires, ou pas trop?
Énormément. Projetons-nous début mai, les répétitions allaient commencer. La situation n'était pas celle de maintenant. Et il fallait vraiment prendre des précautions que nous n'avons jamais eu à prendre. Des bulles sanitaires entre chaque production. On a dû repasser toute la production, vraiment toute la programmation au peigne fin pour éviter les croisements entre différentes productions. Énormément, tous les artistes et je crois que toute l'équipe du festival les remercie, ont été extrêmement coopérants et vraiment avec leur envie, toutes les équipes du festival également, mais c'était des contraintes très fortes.
En tout cas pour l'instant ça marche bien, en tout cas côté public et puis côté presse, puisque j'ai lu beaucoup de belles choses sur la création de ce nouvel opéra de Kaya Saariao, Innocence. La presse a l'air absolument enthousiaste. Moi je n'ai pas encore eu la chance de voir le spectacle. Susanna Melki, qu'est-ce que ça raconte cet opéra Innocence sur un livret de Sophie Oksanen? C'est très sombre comme histoire.
Oui, et c'est sombre, mais en même temps, je pense que ce sujet est très compliqué et lourd, et traité dans une manière très humaine, et qui montre une sorte de compassion. En fait, il ne s'agit pas forcément d'un événement traumatique, mais justement le trauma, comment on vit après quelque chose de très difficile. Donc ça raconte une histoire de mariage, en fait, où il y a un événement qui revient en surface parce qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui reconnaît les personnes. Et oui, et c'est un sujet difficile, mais en même temps, d'une beauté. Oui.
Avec une histoire de tuerie de masse par un adolescent, comme on en voit d'ailleurs de plus en plus, malheureusement, ces dernières années, surtout aux États-Unis. Comment est-ce qu'on pourrait décrire, Susanna, la musique de Kaya Saariao? Pour les auditeurs qui n'ont pas encore pu entendre l'œuvre, est-ce qu'on est encore dans cette patte spectrale qui marquait les premiers opéras que vous connaissez, puisque vous les avez dirigés aussi, ou est-ce qu'il y a une évolution dans le style de Kaya Saariao?
Ce qui est frappant avec cet opéra, c'est que je pense, et j'ai discuté avec beaucoup de personnes, que c'est vraiment une nouvelle page dans son œuvre. En fait, dans cet opéra, il y a énormément de différents styles musicaux. Il y a plusieurs langues, d'ailleurs, mais c'est pas tout. En fait, je pense qu'elle a magistralement créé les différents univers de chacun, parce qu'il y a le monde des adolescents, il y a le monde des adultes, etc. Donc il y a des styles musicaux qui montrent ce contraste, justement. Et il y a aussi, en fait, une vitesse presque cinématographique dans la manière comment l'histoire est racontée. Donc c'est vraiment une œuvre très différente de ce qu'on connaît. Il y a des échos, bien sûr, on reconnaît le style du compositeur, mais il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres éléments aussi. Et il y a le chant d'opéra classique, mais il y a aussi autre sorte de chant, il y a le chant folklorique, il y a aussi le Sprechgesang, il y a la voix parlée rythmique, la voix parlée libre, et plein de musiques différentes en dessous. Donc c'est vraiment fascinant.
Susanna Melki, heureusement les micros de France Musique étaient déjà plantés dans la salle pour les répétitions. On va écouter un petit extrait du quatrième acte de la scène 18 de Innocence de Kaya Sahariao. On va aussi donner la distribution quand même avec Liliane Farani dans le rôle de la mariée, Magdalena Kojena dans le rôle de la serveuse qui est ce personnage clé dans l'opéra, Markus Nikkanen dans le rôle du marié, Sandrine Pio dans le rôle de la mère et l'Orchestre Symphonique de Londres sous votre direction, Susanna Melki. Un extrait de l'opéra Innocence de Kaya Sahariao qui se donne en ce moment au Festival d'Aix-en-Provence, que vous pourrez entendre d'ailleurs sur France Musique dimanche prochain à 20h avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la baguette de Susanna Melki qui est notre invitée ce matin. Effectivement, on sent bien, Jérôme Brunetière, vous le confirmiez pendant qu'on écoutait cet extrait, on sent bien cette musique qui est très dramatique et qui prend aux tripes, hein, la musique de Kaya Sahariao.
Oui, littéralement, et c'est vraiment l'ensemble de et c'est la magie de l'opéra. trace et l'ensemble de cette musique, de cette histoire tragique, mais à laquelle on peut s'identifier, du traitement que Simon Stone a fait de ce spectacle, de ce décor, le metteur en scène. Et ça donne vraiment ce spectacle total qui est extrêmement fort. Et je pense que c'est le type de spectacle qui, vous savez, une partie du public de l'opéra invente une frontière imaginaire entre le répertoire et la création contemporaine. Cette frontière n'existe pas et vraiment ce spectacle le démontre de manière éclatante.
C'est tout simplement du théâtre et de la musique. On va juste donner une petite information, Susanna Melki, c'est que vous, durant ce festival d'Aix-en-Provence, vous faites le grand écart puisque vous allez diriger aussi les 5 reflets de l'amour de loin à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres. Ce sera un concert le 14 juillet. Et ça, c'est une suite qui a été tirée du tout premier opéra de Kaija Saariaho. Donc, vous faites le premier et le dernier. Voilà, je voulais quand même donner cette information. Vous parliez tout à l'heure des langues utilisées par Kaija Saariaho et par ses librettistes. 9 langues, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le roumain, le tchèque, le finnois, le suédois et le grec. Est-ce que ça, c'est un élément qu'un chef d'orchestre doit prendre en compte quand on dirige ?
Oui, naturellement, il faut comprendre au moins le minimum. Mais c'est en fait, je dirais plutôt que le compositeur, la compositrice a fait un travail gigantesque en étudiant toutes les langues, et en fait la prosodie et l'intonation. Et donc elle a écrit une musique qui convient à chaque langue. Donc d'une certaine manière, moi je fais la musique qui va avec la langue. Et c'est extrêmement organique. Et finalement, je n'y pense même plus, parce que c'est devenu une chose essentielle de chaque personnage. C'est fascinant. Et il y a aussi la dimension psychologique, qu'il y a plusieurs personnages qui parlent en différentes langues au cours de l'opéra, selon la situation psychologique. Il y a la langue de privé, il y a la langue de réflexion, il y a la langue qu'on utilise dans une situation de, disons, plus formelle, etc. Donc c'est une utilisation extrêmement riche. Mais le livret était écrit en une seule langue au départ. Oui. Et après, dans le travail de l'opéra, ils ont donné les personnages.
Ils ont fragmenté l'usage de la langue. Comment ça s'est passé d'ailleurs le travail avec la compositrice, avec Kaija Saariaho? Elle était là aux répétitions, elle est très interventionniste, ou alors au contraire, elle laisse faire les musiciens?
Elle a été là pendant tout le temps, aussi l'été dernier, d'ailleurs, quand nous avions la grande chance de répéter cette œuvre déjà l'année dernière, avec encore plus de précautions, des masques partout, mais on a pu faire ça et c'est toujours formidable. Hein, en fait, elle est présente, elle est disponible, on peut lui poser des questions. Et c'est très enrichissant, bien sûr, de discuter avec le compositeur, parce que c'est une œuvre à être interprétée. C'est pas juste pour exécuter, mais il faut le vivre. Et moi aussi, personnellement, je le connais depuis 20 ans, mais j'ai toujours des petites questions à poser. Est-ce qu'elle me permet de prendre un peu plus de temps ici et là, ou là je pense qu'il faut avancer. Elle dit oui, c'est très bien. Et non, c'est toujours un processus magnifique avec les créations.
Il reste 3 représentations au Grand Théâtre de Provence, ici au Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, ce soir, le 10 et le 12 juillet. Il y en aura même une quatrième. La quatrième, c'est le 11 juillet, dimanche prochain, sur France Musique à 20h. Innocence de Kaija Saariaho, un opéra de femmes, dirigé par une femme. C'est pas un hasard, ça, Jérôme Brunetière. On a l'impression que le Festival d'Aix-en-Provence soutient de plus en plus les femmes musiciennes, les femmes chefs et compositrices.
Et les femmes metteurs en scène également. Effectivement, aussi, oui. C'est un engagement fort du Festival d'Aix-en-Provence d'accueillir une grande diversité, d'accueillir des artistes femmes et des artistes de toutes origines. On le voit dans la programmation d'opéra, on le voit également dans les activités de l'Académie, où là on est sur les jeunes artistes et où c'est encore plus important. Ce soir même, nous aurons un concert de 3 femmes chefs d'orchestre qui finissent une résidence de l'Académie et qui ont beaucoup accompagné Susanna dans les répétitions d'Innocence, observé, échangé avec elle. Oui, c'est un engagement fort et c'est quelque chose de, il faut être actif sur ce sujet-là et pas simplement constater ou faire quelques efforts. Il faut vraiment prendre ce sujet à bras le corps.
C'est
Alors ça, c'est vraiment un moment très poignant, bouleversant. C'est la toute fin de l'opéra Innocence de Kaya Saariaho. Encore un extrait que nous avons volé à France Musique en répétition il y a quelques jours avec la voix, c'est incroyable, cette voix de Vilma, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, Vilma G.
Yeah,
dans le rôle de Marquetta, qui est la petite fille qui demande à la fin à sa mère d'arrêter d'en vouloir à la terre entière parce qu'elle a été victime. Elle demande de la laisser partir, de laisser partir son fantôme. C'est assez poignant. En plus, elle chante avec une sorte de voix d'enfant qu'elle prend là, Suzanne Belki. C'est pas une voix lyrique, je veux dire.
Non, pas du tout. Non, c'est un moment extrêmement touchant. Donc, si on n'a pas des larmes dans les yeux avant, c'est le moment qui est vraiment le pire. Extrêmement émouvant. Et oui, justement, en fait, elle chante en plusieurs voix différentes. Il y a ce chant d'enfant, on peut dire, quand elle chante à sa mère, aux plusieurs reprises. Et il y a aussi les chants folkloriques avec un caractère extrêmement, je dirais même sauvage, en fait. Il y a une puissance dans la voix archaïque qu'elle utilise aussi parfois, et c'est quelque chose.
Innocence de Kaya Saariaho, que vous dirigez, Suzanna Melki, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres. On a évoqué il y a quelques instants avec Jérôme Brunetière le soutien du festival aux femmes metteurs en scène, compositrices, chefs d'orchestre. Vous avez vous-même été, Suzanna, la première chef à se faire une place à Paris, avec l'ensemble intercontemporain il y a quelques années. Vous avez été aussi la première à diriger à la Scala de Milan. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses ? Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens ?
Absolument, oui, c'est positif. Et je pense aussi qu'on voit que vraiment l'évolution passe avec les générations. Maintenant, il y a un grand nombre de jeunes femmes chefs qui arrivent là. Et c'est naturel, en fait, ça prend du temps. Il faut donner le temps, mais aussi il faut donner les opportunités. Et je pense que c'est positif. Et peut-être un jour, on n'aura plus besoin d'en parler. Ça, c'est bien sûr toujours, ça a été mon but, en fait.
Plus besoin d'avoir une académie dédiée aux jeunes femmes chefs d'orchestre.
Non, on a toujours besoin de la formation. Ça, c'est évident. Mais voyons, par exemple, le cas de Kaya Saariaho, qui est un très bon exemple. Elle a aussi été un pionnier en plusieurs manières. Mm-hmm. Mais là, en fait, aujourd'hui, elle est... le compositeur, la compositrice le plus important de l'opéra d'aujourd'hui. Cette œuvre est une chef-d'œuvre et on ne pense plus si c'est une femme ou un homme qui a écrit, mais c'est une œuvre absolue.
Alors il y a une chose moi qui m'a quand même frappé quand on regarde votre parcours, Suzanna, mais peut-être Jérôme peut nous donner son avis aussi, c'est que finalement, à chaque fois ou presque à chaque fois que vous avez émergé, c'était grâce à la musique de création, grâce à la musique d'aujourd'hui. Est-ce que ça voudrait dire que le répertoire classique est encore un peu en retard, entre guillemets, sur la situation des femmes chefs d'orchestre ? Est-ce que la musique de création est plus ouverte ?
Bon, il y a peut-être une ouverture d'esprit, bien sûr, parce qu'on est tellement concentré à la création que toutes les autres choses passent en deuxième plan. Mais je ne voudrais pas forcément faire une généralisation parce qu'il y a d'autres chefs qui ont fait une carrière dans le répertoire. Simon Yang a dirigé de l'opéra, etc. Opéra classique, je veux dire. Mais oui, on pourrait éventuellement réfléchir s'il y a une mentalité différente. Mais je pense aussi que dans le paysage de la musique, il y a souvent des cloisonnements qu'on aime donner aux gens. En fait, moi, j'ai fait du répertoire traditionnel pendant toute ma carrière aussi, mais ce qui était visible, c'est surtout la musique contemporaine. Donc, c'est un peu les deux, je dirais.
En tout cas, grâce à l'Académie, Jérôme Brunetière, vous donnez cette possibilité à de jeunes chefs d'orchestre de s'intégrer dans le milieu, de mettre le doigt dans l'engrenage. Une académie qui ne s'occupe pas que des femmes. Il y a aussi un grand projet méditerranéen. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot rapidement avant de se quitter ? Qu'est-ce que c'est exactement, Jérôme Brunetière ?
Oui, bien sûr. Le festival a incorporé l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui existait depuis 1984, l'a incorporé à l'intérieur du festival. Aujourd'hui, cet orchestre fait partie du festival. C'est une activité à part entière du festival, avec une phalange symphonique qui va se réunir ces jours-ci pour un concert le 20 juillet et avec une phalange interculturelle où on explore d'autres esthétiques issues d'autres esthétiques musicales dans un processus vraiment de création. Et autour de ça, un réseau considérable s'est tissé qui permet d'imaginer toutes sortes de coopérations et de collaborations artistiques. Et c'est ça vraiment cette programmation méditerranéenne du festival qui apparaît à de nombreux endroits dans la programmation de concerts du mois de juillet, dans la programmation d'Aix-en-Juin, et qui aujourd'hui fait vraiment partie de l'identité de ce festival qui, de par sa géographie, est de toute façon méditerranéen.
Je crois qu'on l'aura bien compris ce matin, grâce à tous les deux, le festival d'Aix-en-Provence est à la pointe dans tous les domaines, en tout cas dans le domaine lyrique. Merci Susanna Melki d'être passée nous voir ce matin dans le studio de France Bleu Provence. Merci Jérôme Brunetière.
Merci.
Allez, ben on va faire un petit clin d'œil à la place des femmes, un petit clin d'œil musical, puisque vous avez enregistré récemment l'opéra Le Château de Barbe Bleue de Bartok. Alors là, les femmes ont une place un peu particulière, celle de victime sans doute. On va écouter un extrait de ce Château de Barbe Bleue. C'est la cinquième porte, l'immense et magnifique royaume de Barbe Bleue, sous votre direction, Susanna Melki. Merci à tous les deux et très bonne fin de festival. Un extrait du château de Barbe Bleue de Bartok, la cinquième porte, l'immense et magnifique royaume de Barbe Bleue avec les voix de Mika Karès en Barbe Bleue, Sylvia Voros dans le rôle de Judith, l'orchestre philharmonique d'Helsinki, sous la baguette de Susanna Melki. C'est un enregistrement qui vient tout juste de sortir, Susanna Melki, qui dirige donc ici la création de Innocence de Kaya Saria au Festival d'Aix-en-Provence jusqu'au 12 juillet.